Deuxième invité de la matinale, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut français des relations internationales.
Le tête-à-tête.
Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Spécialiste des relations internationales, mais aussi grand amateur de foot, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, Pascal Boniface ?
Bah, étant parisien, oui, je suis supporter du Paris Saint-Germain.
Voilà, au moins on sait d'où vous parlez, hein, comme on dit dans ces cas-là. Ça fait rêver le fan de foot que vous êtes de voir Lionel Messi débarquer dans le championnat de France.
Oui, c'est un rêve qui devient une réalité parce que ça paraissait impossible il y a ne serait-ce que quelques semaines. Donc il y a une conjonction tout à fait particulière liée aux difficultés du football espagnol et de Barcelone. Mais pendant très longtemps, les meilleurs joueurs français partaient dans les clubs étrangers. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde qui arrive dans un club français. Donc c'est quand même effectivement un signal très fort et quelque chose qui va marquer non seulement le football français, mais l'ensemble de la planète. Sur tous les continents, on parle de l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, en Amérique latine bien sûr, mais aussi en Afrique et en Asie.
Il y a une sorte de bascule en quelque sorte, hein, qui est en train de s'opérer. Le premier enseignement, Pascal Boniface, c'est qu'à travers cette arrivée de Messi, alors on rappelle qu'il ne s'agit pas d'un transfert, hein, puisqu'il était libre, mais en tout cas, le fait d'avoir séduit Lionel Messi, le Qatar confirme son engagement auprès du club de la capitale sur le long terme. Là aussi, c'est un geste fort.
Oui, mais ce n'est pas étonnant. Le Qatar va organiser la Coupe du Monde en 2022, donc c'est quand même un marqueur extrêmement fort. Et le Qatar tient aussi à la crédibilité de sa signature. Donc depuis déjà une dizaine d'années, le Qatar investit dans le football via le Paris Saint-Germain. Il y a eu une montée en puissance des transferts, d'abord Pastore, ensuite Ibrahimovic, ensuite Neymar et Mbappé. Et là, c'est effectivement l'apothéose avec Messi, qui est unanimement considéré comme le meilleur joueur du monde.
Alors, est-ce que ce recrutement, Pascal Boniface, a un objectif politique ou géopolitique ?
Oui et non. L'objectif, c'est d'abord un objectif sportif, c'était remporter la Ligue des Champions. Et une fois encore, il y avait des conditions qui n'étaient pas possibles il y a un an ou deux, et qui l'ont été aujourd'hui, à savoir l'endettement massif du FC Barcelone, et également les règles d'encadrement de la masse salariale décidé pour l'ensemble des clubs espagnols, ce qui rendait impossible le maintien de Messi à Barcelone. Alors là-dessus, bien sûr, le club, le Paris Saint-Germain, en profite. Et évidemment, indirectement, il y a des effets d'image pour le Qatar, puisqu'on peut penser qu'en 2022, Messi aura peut-être aussi un rôle à jouer comme ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, à laquelle, bien sûr, il participera tout à fait normalement avec l'équipe d'Argentine.
Mais je lis par ailleurs que le Qatar a besoin finalement de ce coup sportif pour renforcer son image sur le plan international, sur le plan politique, notamment son influence dans la région des Émirats à côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ça compte ça aussi pour renforcer finalement l'influence du Qatar dans cette région ?
Oui, tout à fait. En 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn avaient décrété un blocus du Qatar. Et certains s'étaient interrogés si, sur les effets de ce blocus, est-ce que le Qatar allait de ce fait se désengager du Paris Saint-Germain. C'est la même année, ils ont acheté Neymar et Mbappé pour montrer qu'en rien ils ne se désengageaient et qu'ils jouent effectivement. Le Qatar mise sur le football pour exister sur la carte du monde. Le père de l'actuel émir, dans les années 90, s'était rendu en Angleterre. Et le douanier lui a dit « Mais c'est où le Qatar ?» Maintenant, tout le monde sait où est le Qatar, en grande partie du fait des exploits du Paris Saint-Germain et de la notoriété que le football permet de susciter.
Est-ce que ça renforce également sa position, encore une fois, dans la région, vis-à-vis de ce que l'on peut considérer comme une menace de ses grands voisins ?
Alors, le blocus a été levé parce qu'il n'avait pas fonctionné, qu'il paraissait quand même de plus en plus contraignant et douteux, y compris pour ceux qui l'avaient mis en place. Et on sait qu'il y a une compétition en diplomatie sportive. L'Arabie Saoudite imite un peu le Qatar et mise également avec le Paris-Dakar avec des grandes compétitions. Les Émirats Arabes Unis, de leur côté, investissent à Manchester City. Donc il y a effectivement cette rivalité géopolitique se prolonge dans le domaine sportif, mais c'est finalement pas tout à fait nouveau et ça ne concerne pas que le golf.
Vous disiez que Messi pouvait devenir d'une certaine façon ambassadeur du Qatar et aussi ambassadeur de la Coupe du Monde qui se tiendra fin 2022 dans l'Émirat. C'est aussi une façon de donner une image brillante et peut-être d'occulter certaines réalités que l'on a observées par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde, des chantiers qui ont fait beaucoup de victimes, des problèmes avec les droits de l'homme, les droits humains dans l'Émirat.
Au contraire, disons que le fait que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar a mis en lumière la condition des travailleurs immigrés dont on ne parlait pas beaucoup auparavant. Mmh. Et donc, quand vous avez un coup de projecteur, ça éclaire les côtés positifs, mais également les côtés négatifs. De ce fait, le Qatar a été obligé de changer sa législation sur les travailleurs immigrés, créer un salaire minimum et entamer un dialogue avec les grandes ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch, qui ne demandent pas à ce que la Coupe du Monde n'ait pas lieu au Qatar. Ces organisations demandent à ce que l'on se serve de la Coupe du Monde comme d'un levier pour améliorer la situation des travailleurs immigrés.
Donc en fait, en quelque sorte, ça permet au Qatar d'entrer dans le concert des nations de façon un petit peu plus, acceptable, si je puis dire.
Oui, c'est vrai qu'on associe toujours un peu le golf avec les tensions, les conflits géopolitiques, etc. Le Qatar mise sur le sport. Le Qatar avait deux leviers pour exister sur la scène internationale, Al Jazeera en tant que média et le sport, parce que l'idée c'est que le sport est fédérateur, les sports donnent une bonne image et le sport est finalement accepté par tout le monde. Le sport ne crée pas de clivage, il crée plutôt l'adhésion. Et donc effectivement, le Qatar a une stratégie très offensive de diplomatie sportive.
Et puis ça permet également de diversifier les activités économiques, disons, parce qu'on sait que le pétrole, le gaz, peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus finalement dans ce territoire.
Oui, le Qatar a depuis longtemps, comme d'ailleurs l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, une reconversion. Ils savent que le pétrole est plutôt derrière que devant. Et donc tous ces pays misent sur d'autres, sur des investissements à l'étranger et sur d'autres leviers pour maintenir leur économie. Alors, dans le football, généralement, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Mais là, Messi, c'est un peu différent. C'est qu'au prix où il vient, comme il est libre de droit, qu'il n'y a pas de transfert, Neymar avait coûté 222 millions, Mbappé 180. Là, Messi n'arrive à un salaire conséquent, mais qui va être amorti économiquement par l'augmentation des recettes marketing et la vente de maillots.
Dernière question, Pascal Boniface. Vous qui connaissez le football, vous savez que ce n'est pas en empilant les stars qu'on gagne forcément les titres et notamment la Ligue des Champions. Est-ce que ce n'est pas malgré tout un pari un peu risqué pour le Qatar, parce que la réussite sportive n'est jamais garantie en football. Et puis un échec et un scandale, ça peut rapidement se retourner sur les propriétaires et mettre partir toute une
stratégie. Oui, bien sûr, si le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions, il va y avoir des commentaires très négatifs sur le Paris Saint-Germain, sur ce pari perdu. Mais en fait, Neymar et Messi ont déjà joué ensemble, il y a une très grande complicité, et Mbappé devrait aussi s'aligner sur cela. Donc bien sûr, si le Paris Saint-Germain ne gagne pas tout cette année, il va y avoir des critiques. Enfin, je pense qu'ils vont faire un bon parcours et surtout, tout le monde aura envie de voir le Paris Saint-Germain, soit en direct dans un stade, soit à la télévision. Donc il y aura quand même beaucoup de lumière sur cette équipe, et là, au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est tout le football français qui va gagner une visibilité, parce qu'un match que le Paris Saint-Germain va faire, par exemple, à Brest à la fin du mois, Messi joue, le monde entier va regarder ce match.
Ouais, et ça permet également de véhiculer une image sur le plan mondial aussi, hein, avec les ventes de maillots, etc.
Exactement, et là le marché asiatique est un marché essentiel. Les clubs français ne sont pas très connus, c'est plutôt les clubs anglais ou espagnols qui se taillent la part du lion. Là, vous allez avoir des maillots du Paris Saint-Germain dans le monde entier.
Merci Pascal Boniface, merci pour cet éclairage et ce décryptage de la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin.